Bonjour à toutes et à tous, et merci aux organisateurs de me permettre de présenter mes travaux. Guillaume Paysan, je suis ATER à l'Université Rennes 2 et rattaché à l'UMR ESO. Et donc, je vais vous présenter les résultats de ma thèse que j'ai soutenue en novembre dernier. J'étais encadré par Nathalie Carco et Sébastien Caillot à AgroCampus Ouest Angers. Et donc, ma thèse s'intitulait Approche géographique des trajectoires paysagères des hydrosystèmes secondaires de l'Ouest de la France, études de l'Aubance et du Couesnon en contexte ligérien. Donc, je vais d'abord vous présenter le contexte, donc les hydrosystèmes secondaires. Ensuite, les méthodes que nous avons mises en œuvre dans le cadre de cette étude. Quelques résultats sur les trajectoires paysagères pour conclure et vous présenter quelques perspectives. Donc, les hydrosystèmes secondaires des paysages ordinaires des objets originaux. Les sociétés ont toujours été en interrelation forte avec la structure et le fonctionnement de la Terre, comme ça a été dit. Et ces dernières décennies, les impacts des sociétés sur la Terre sont tels qu'il y a une ère géologique qui a été décrétée, l'Anthropocène, où même si son point de départ fait débat dans la communauté scientifique, en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que l'impact des sociétés est maintenant extrêmement fort et irréversible sur le fonctionnement de la Terre. Je vais un peu vite. En France, la politique de modernisation de l'économie qui a fait suite à la Seconde Guerre mondiale est passé par différentes étapes, notamment l'intensification des modes de production agricole via la politique agricole commune, le développement d'infrastructures routières. Et tout ça a eu des transformations, ont causé des transformations profondes sur le paysage et ses éléments constitutifs. Par ailleurs, on sait que les hydrosystèmes font partie des milieux les plus significativement modifiés par l'homme. Depuis la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, on note un processus d'écologisation, dont notamment l'émergence de lois de protection de l'environnement et des ressources, avec bien sûr les premières lois sur l'eau, et puis la directive cadre, l'ALEMA et la loi Grenelle 2, qui ont notamment eu pour conséquence d'orienter la gestion de toutes les rivières françaises vers deux types d'actions. La suppression d'obstacles à l'écoulement pour restaurer la continuité écologique et sédimentaire, et la diversification des écoulements par remèandrage pour favoriser les débordements lors des crues et favoriser la biodiversité. Finalement, ce sont deux politiques antagonistes qui s'appliquent sur les hydrosystèmes sur un pas de temps assez court. Les nouveaux modes de gestion tendent à déconstruire le modèle productiviste de la seconde moitié du XXe siècle. Cela n'est pas sans créer des conflits sur le terrain, donc liés aux différents usages et perceptions de ces espaces. Nous avons aussi constaté que les structures gestionnaires des hydrosystèmes n'ont pas toujours une bonne connaissance des héritages par manque de moyens matériels, humains et financiers. Et dans le cas spécifique des hydrosystèmes secondaires, ce sont des paysages ordinaires et ils ont été finalement l'objet d'assez peu d'attention comparativement aux cours d'eau majeurs ou aux fleuves, et particulièrement dans le contexte ligérien où la Loire a tendance à attirer beaucoup l'attention et ce qui peut masquer les enjeux sur les petits affluents. Donc, dans ce contexte, les objectifs de notre recherche, c'était d'enrichir la connaissance sur les hydrosystèmes secondaires de l'Ouest en contexte ligérien, en caractérisant leur dynamique dans le contexte des dernières grandes mutations, donc PAC, DCE et les changements d'usage, d'identifier les facteurs qui influencent ces dynamiques et les contextes et les échelles dans lesquelles ils interviennent, et finalement répondre à la problématique suivante, comment l'étude des trajectoires paysagères peut nous éclairer sur les effets des usages et des politiques d'aménagement du territoire sur les hydrosystèmes secondaires. Donc maintenant, je vais vous présenter rapidement les méthodes que nous avons mises en place. Donc déjà, nous sommes partis d'une approche comparative. Nous avons choisi deux terrains a priori différents, et ça s'est confirmé. Le Couesnon, donc qui est un sous-affluent de la Loire, puis qui se jette dans l'Authion, qui évolue à l'est d'Angers et entièrement inscrit dans le bassin parisien. Et puis l'Aubance, qui se jette dans l'Alouette, qui est un bras de la Loire, qui se trouve au carrefour entre le massif armoricain et le bassin parisien. Et ces deux bassins versants ont des caractéristiques assez différentes, géomorphologiques, liées au mode de production agricole qu'ils portent, etc. Et donc c'est ce qui nous intéressait, c'était justement étudier ces évolutions dans deux contextes différents. Très rapidement, nos deux terrains donc présentent à l'amont des contextes de plateaux sédimentaires destinés à l'agriculture intensive. Par contre, à l'aval de l'Aubance, nous sommes dans une vallée particulièrement encaissée, avec une rivière à méandre et des coteaux viticoles, tandis qu'à l'aval du Couesnon, nous sommes sur plutôt un fond de vallée occupé par des peupleraies. Donc, je reviendrai un petit peu sur ce point après. Nous avons aussi adopté une méthode multiscalaire. Donc, à l'échelle de l'hydrosystème, nous avons eu une approche assez quantitative qui s'attachait à digitaliser le Talweg à deux dates, 1950 et 2016. 1950 parce que c'est avant les grandes transformations liées à la modernisation de l'agriculture, et puis qu'on avait des données pour ça. Et caractériser aussi l'occupation du sol de la plaine alluviale à ces deux dates aussi. Donc, cela nous a permis notamment d'extraire des indicateurs paysagers qui nous ont permis de caractériser nos hydrosystèmes à ces deux dates. Et puis, nous avons choisi de segmenter notre hydrosystème en unités spatiales régulières et d'agréger différents indicateurs pour réaliser une analyse factorielle qui nous a permis de caractériser des faciès paysagers à deux dates, 1950-2016, pour les deux rivières, et de produire des cartes de trajectoires paysagères. Et puis, ce travail-là nous a aussi permis de repérer des secteurs fonctionnels à partir des trajectoires paysagères repérées, sur lesquels il serait intéressant d'avoir une analyse plus fine, notamment en décomposant les changements, et plus seulement avoir 1950-2016, mais aussi voir décomposer la trajectoire avec un pas de temps de 10 ans pour voir quelles sont les temporalités de ces trajectoires, et en prenant en compte aussi des éléments de contexte, notamment les remembrements, les zones de protection du patrimoine, etc., dans une approche cette fois qualitative qui mêlait fonds d'archives, entretien, analyse de photographie aérienne, etc. Et qui nous a permis donc de produire les trajectoires paysagères à l'échelle locale. En plus de ça, nous avons aussi étudié deux projets de restauration des continuités écologiques qu'il y a eu sur nos terrains et qui sont, comme souvent, l'objet de controverses. Donc, un cas pour chaque terrain, une suppression d'ouvrages de régulation des eaux pour le Banse et un remue-andrage sur le Couesnon. Et puis, comme je disais, nous avons mené des entretiens, donc 11 entretiens semi-directifs auprès d'agents de l'État en charge de la gestion des rivières, des agents des collectivités territoriales et des usagers et agriculteurs riverains. Maintenant, je vais vous présenter quelques résultats de notre analyse des trajectoires paysagères. Donc, les résultats que je vais vous présenter concernent cette étape-là, celle de segmentation de l'hydrosystème. Donc, comme je vous le disais, nous avons appliqué donc une analyse factorielle, donc une analyse en composantes principales, puis une classification ascendante hiérarchique pour atteindre une typologie de notre hydrosystème, mais en fait les fameux faciès paysagers. Donc, pour cela, nous avons sélectionné 13 variables qui sont liées à la morphologie du Talweg, à l'occupation du sol et à la géomorphologie. Et ces variables caractérisent plus ou moins les classes, les différentes classes, suite à la CP et à la CH. Et ces classes sont réparties donc, le long de notre hydrosystème. Et donc, nous considérons qu'une portion de classes, donc une ou deux maximum, forme une portion homogène qu'on a appelée un faciès paysager, que nous avons traduit schématiquement. Un faciès paysager, et c'est l'étude des changements de classe et de faciès aux deux dates qui nous permet de caractériser les trajectoires paysagères. Donc, vous avez ici le résultat des classes et des faciès paysagers en 1950 avec leur traduction schématique, la traduction des faciès à droite. Donc, je ne vais pas m'étendre sur à décomposer ce que ça nous apprend, je vais plutôt m'attarder sur les trajectoires, mais déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a deux classes dominantes, celle avec les flèches rouges, qui caractérisent nos cours d'eau et nos hydrosystèmes à cette date-là. Et qui sont plutôt caractérisés par un système herbagé avec une rivière soit méandre, soit ramifiée qui les traverse. En 2016, on s'aperçoit que les classes dominantes ne sont plus du tout les mêmes, donc ce qui témoigne d'une réelle transformation paysagère. Et puis, nos rivières n'ont plus de profil, donc ce qui tend à dire que les transformations qu'elles ont connues ont renforcé leurs caractéristiques propres, en tout cas pour ce qui est du fond de vallée. Donc, si maintenant on étudie l'évolution des classes entre les deux dates, on obtient cette carte des trajectoires paysagères qui nous permet de distinguer plusieurs trajectoires. Déjà, des trajectoires liées à l'intensification agricole. Donc, on note une forte intensification à la confluence entre le Couesnon et l'Authion, donc de niveau 1, que nous avons considéré étant de niveau 1, donc qui concerne une conversion de système bocager en 1950 vers des cultures et accompagnée par le recalibrage de la rivière, par de l'arasement de haies. Une autre intensification agricole, cette fois-ci à l'amont de l'Aubance, caractérisée par de l'optimisation de zones qui étaient déjà en culture, donc avec de l'agrandissement parcellaire notamment, de la conversion de systèmes prairies et bois qui sont convertis en culture. Et puis, à l'aval de l'Aubance, à la confluence avec la Loire, une intensification agricole aussi, mais qui a conduit quand même au maintien des surfaces en herbe, mais avec un très fort arasement des haies, notamment pour l'agrandissement parcellaire, et de la rificile. Une autre trajectoire importante, et qui concerne deux secteurs particuliers, qui est la fermeture dans les secteurs particulièrement encaissés. Donc ici, sur le Couesnon, en amont de Baugé, nous avons un cas de fermeture, ou en tout cas de boisement partiel du fond de vallée, et dans la partie armoricaine de l'Aubance, le même phénomène. Et puis, nous avons une trajectoire qui est propre au Couesnon, c'est celle qui correspond à la couleur violette, là, et qui est très localisée sur le Couesnon, et qui concerne en fait des prairies qui ont été converties en associations de formations boisées et de cultures. Et en fait, ce sont toutes les peupleraies qui ont été installées et qui, du coup, cohabitent avec les cultures et qui sont propres au Couesnon. Maintenant, donc je vous ai présenté qu'une petite partie, évidemment, des résultats de ce travail. Maintenant, je vais vous présenter les conclusions que notre travail a permis d'établir. Il permet de mettre en avant le poids des contextes locaux dans les trajectoires paysagères de ces rivières-là. Donc, il n'y a pas un modèle de petite rivière unique dans l'ouest de la France. Et ces trajectoires, elles vont être influencées localement par la géomorphologie. Donc, notamment, l'intensification de la production agricole et son lien avec la rivière va être très différent selon le contexte local géomorphologique. Donc, on note par exemple sur les deux terrains une régression des surfaces en herbe de 32%, qui est composée par l'augmentation des terres labourées pour l'Aubance, mais sur le Couesnon, c'est compensé aussi par une augmentation des terres labourées, plus 14%, mais également par une augmentation des surfaces boisées, notamment liées à l'installation de peupleraies. Et nous considérons que ces installations de peupleraies sont un site de déprise agricole, puisque les agriculteurs ne sont pas des exploitants forestiers, et c'est leur moyen de valoriser des terres qu'ils ne peuvent plus exploiter pour leur activité principale. Par ailleurs, il y a aussi le contexte socio-économico-politique qui va grandement jouer et influencer ces trajectoires. La crise de l'élevage, la politique agricole commune et comment elle a été appliquée localement, et les restructurations des organismes gestionnaires, tout cela aussi va jouer sur l'intensification agricole dans certaines zones et la déprise agricole et ses impacts, et aussi sur la temporalité de ces changements sur les deux hydrosystèmes. Et puis, on note aussi que les zones de confluence jouent un rôle important dans les trajectoires paysagères des affluents. On voit très clairement les enjeux patrimoniaux de la Loire qui ont déteint sur la trajectoire de l'Aubance aval. Et pareil pour le Thion, qui a forcément fortement influencé la trajectoire du Couesnon, qui finalement a été adaptée en zone de production intensive de cultures spécialisées propres à le Thion, pour l'horticulture, les semences et le maraîchage. Pour l'illustrer, vous avez ici les deux contextes de confluence en 1950.
Guillaume, il te reste 1 minute 30.
D'accord, merci. Vous avez ici les deux contextes de confluence, l'Aubance en haut et le Couesnon en bas, et donc on voit qu'en 1950, on est sur des systèmes assez similaires, avec une rivière qui présente plutôt, enfin, qui est assez sinueuse, un réseau de haies assez développé, une ripisylve qui est encore présente. Et puis en 2016, on a toujours les herbages pour l'Aubance, mais avec un réseau de haies qui a disparu pour l'agrandissement parcellaire, et le Couesnon, par contre, qui présente des cultures dans sa plaine alluviale, en cohérence avec finalement le système de l'Authion dans lequel il se jette. Rapidement, notre travail nous a aussi permis de montrer que les actions de réhabilitation, donc replantation de haies et ripisylves, qui sont plus récentes, ont des impacts modérés sur le paysage, comparé aux transformations liées à la modernisation. Et il y a une certaine déconnexion entre gestionnaires et usagers qui est perçue et qui ressort dans nos entretiens et qui semble liée aux restructurations des organismes en charge de la gestion. Et puis, les opérations de restauration, elles s'effectuent en terrain favorable, c'est-à-dire dans les zones où on va éviter les conflits. Et ça, c'est une spécificité des cours d'eau non domaniaux puisqu'on est sur des terrains privés. Et en perspective, on pourrait élargir la fenêtre temporelle. Donc là, on est remonté jusqu'en 1950. On pourrait très bien étudier les héritages depuis le 19e siècle, notamment grâce au cadastre napoléonien, qui a été géoréférencé à l'échelle de toute la région Pays de la Loire par Géopal, et qui nous permettrait d'étudier plus précisément ces évolutions. Et puis, on pourrait aussi transposer notre approche sur d'autres hydrosystèmes secondaires de gabarits similaires. Donc, on en a identifié près de 200 dans le Grand Ouest et une trentaine en Basse-Loire, et qui pourraient aussi contribuer à renforcer notre connaissance des trajectoires paysagères de ces petits hydrosystèmes et des facteurs qui les influencent. Voilà. Je vous remercie de votre attention.